Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec le député européen Gilbert Collard. Merci d'avoir accepté mon invitation, Gilbert Collard.
Mais merci à vous, merci à vous.
De votre livre qui s'appelle Protestation et puis aussi de votre arrivée à La Baule. Mardi 29 mars, en meeting, réunion publique avec Jacqueline Mourot et Sébastien Pilar. Vous êtes président d'honneur du mouvement Reconquête, une réunion publique évidemment dans le cadre de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. La première question que je voulais vous poser, Gilbert Collard, c'est que vous faites pas mal de réunions publiques. Quelles sont, avec ce contact que vous avez directement avec les Français, les sujets qui reviennent le plus régulièrement ? Est-ce l'immigration ? Est-ce le pouvoir d'achat ? Est-ce la situation internationale ou autre chose ? Voilà.
D'abord, le contact que nous avons avec les Françaises et les Français qui viennent dans les meetings est un contact très chaleureux, presque passionnel. J'ai fait beaucoup de meetings, hein, vous vous en doutez, et je n'ai jamais ressenti, très très franchement, hein, une telle passion, une telle ardeur, une telle espérance. Je crois que la passion qu'on peut voir dans les meetings d'Éric Zemmour, que ce soit lui-même à la tribune ou bien un de ses porte-parole, elle est de l'ordre d'une espérance dans le changement d'état du pays. C'est très émouvant en même temps, hein, parce que c'est de l'ordre de l'espérance. Et c'est ce qui explique cet engouement, ce courage de gens qui parfois viennent malgré des meetings, des fascistes, d'antifa, qui veulent s'opposer à la liberté d'expression, hein, qui est sacrée pour qui que ce soit. Hein. Je défendrai la liberté d'expression de Mélenchon comme je défendrai celle de Valérie Pécresse ou de Marine Le Pen.
Vous l'avez toujours dit, ça. Oui.
Voilà, je l'ai toujours dit. Je crois qu'on peut pas prétendre que c'est un propos de circonstance. Donc voilà, moi j'ai vu des files d'attente de 500, 600, 700, 800, 1000 personnes. Hein. Je n'avais jamais vu ça dans aucun meeting. Jamais, voilà.
Alors,
de quoi nous parlent les personnes? Qu'est-ce qui les préoccupe? On se rend compte à travers ce contact fraternel, humain, qu'il y a des tout à fait réels, hein, et qui s'expriment, hein, souffrance de la perte d'identité, de la perte de repères, de la destruction des références, souffrance de du poids tout à fait anormal de l'immigration, qui n'implique pas pour autant une critique contre l'homme immigré ou la femme immigrée, car chaque histoire recèle sa souffrance, mais contre la systématisation de l'immigration qui nous renvoie déjà à ce que disait Giscard qui voulait la stopper, Chirac qui voulait la stopper, Pasqua qui voulait la stopper, hein, et bien d'autres, hein, qu'on pourrait citer. Bon, tous ces hommes et toutes ces femmes ont le sentiment maintenant d'une menace identitaire sur leur vie existentielle, hein, sur leur vie physique et métaphysique. Et ça, c'est dû vraiment à l'incapacité où nos gouvernements ont été de réguler. Hein. Philippe Séguin, rappelez-vous, qui n'était pas un facho, Philippe Séguin disait. Il ne faut pas verser des larmes de crocodile sur les étrangers qu'on renvoie chez eux. À l'époque, on pouvait les renvoyer, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile. Donc, cette souffrance française, elle est liée au fait qu'un Français en France, d'où qu'il vienne, hein, quelle que soit son origine, peu importe, hein, parce qu'on a des Français marocains qui nous le disent, des Français algériens qui nous le disent, des Français tunisiens qui nous le disent, qui sont d'abord Français, et qui ont le sentiment que leur pays est en train d'être piétiné. Voilà.
Quand vous évoquez la question de l'immigration, notamment, vous allez venir à La Baule, c'est une population très spécifique que vous connaissez dans des quartiers bourgeois, des grandes villes, La Baule, ville bourgeoise. L'immigration, il n'y en a pas vraiment. Il y a toute une clientèle, on va dire plutôt de retraités aisés, qui ne se soucient pas de ces questions, parce qu'ils ne sont pas confrontés à cela, qui vivent plutôt bien. Et qui vous explique que finalement Macron a fait ce qu'il a pu, il s'est bien débrouillé, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces gens-là?
Ah ben, je leur dis que ils ont beaucoup de chance s'ils ne souffrent pas d'immigration
Oui,
massive
vous
et
savez, ça peut
incontrôlée.
être dans le 7e arrondissement à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Vous la
Oui,
connaissez,
mais tout
cette
à fait.
clientèle, vous
Tout à
l'identifiez.
fait. Mais ils ont quand même l'œil sur les événements et ils voient bien ce qui se passe, hein. Ils voient bien les images, même si elles sont souvent sélectionnées de la réalité française, hein. Bon, ils savent qu'à Creil, on entend le chant du muezzin. Bon, ils le savent tout ça et c'est pas acceptable. Mais on peut ne pas être percuté par les événements et avoir une absence d'égoïsme national qui fait qu'on est solidaire de ceux qui vivent des situations difficiles, hein. Bon, l'état de la France, il n'est pas quand même, il n'est pas quand même louable, hein. On est les champions de la pression fiscale, on est les champions des dépenses sociales, on est les champions de l'immigration, on est les champions de l'insécurité, on a une justice qui fonctionne plus, des greffes qui sont en grève. Enfin bon, si on fait le tour de France, des misères de la France, on peut dire que le quinquennat de Macron, à part la prolifération des cabinets privés comme McKinsey, n'a pas été une belle réussite, hein, voilà. Maintenant, on peut être dans des quartiers choyés et avoir cette lucidité politique. Je connais des gens qui sont à l'abri des méfaits d'une immigration massive, incontrôlée, et puis d'une immigration surtout économique, hein, parce que au-delà, tout être a droit, bien sûr, à l'asile quand il le mérite, hein. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Et je pense que ces gens sont parfaitement conscients de la réalité de la dégradation du pays.
Pourquoi ce que vous venez de dire, moi je l'entends, on aurait pu le depuis presque 1993, 1995,
Oui, ben
1900,
oui.
rien ne change.
Hein?
Et ça
Eh ben,
s'empire, et ça s'empire, Gilbert
et
Collin.
voilà, tout à l'heure, hein, je disais un peu ce que vous venez de dire, hein, quand j'évoquais Giscard, quand j'évoquais Chirac, quand j'évoquais Seguin, quand j'évoquais Pasqua, j'aurais pu évoquer Georges Marchais aussi, qui le disait. Bon, rien n'est fait parce que il y a un manque de courage, hein, et puis de plus en plus une pression de l'Union européenne qui est immigrationniste, fondamentalement immigrationniste et internationaliste, parce que elle ne travaille pas au niveau des nations, au niveau des États, elle travaille au niveau des lobbies. Et au niveau des interactions financières propulsées par les lobbies. Voilà.
Votre livre s'appelle Protestation, Confession sur l'état de la France, et c'est pas pour rien que ça s'appelle qu'il s'appelle Confession, parce que vous imaginez, je ne sais pas si vous imaginez, c'est peut-être un vrai dialogue que vous avez eu avec un vieux moine dans une abbaye. Pourquoi avoir choisi ce contraste alors avec ce
Ben
dialogue et ce moine?
parce que il y a le bruit et la fureur médiatique nous rendent cons, voilà. On est dans le présentéisme le plus pénible. On doit répondre dans le quart d'heure à une question, on doit donner un avis sur tout et bien souvent, moi le premier, hein, je le reconnais, on n'est pas dans la maturité d'une réflexion suffisante. Et
Parce
c'est
qu'on nous laisse
devenu,
pas le choix.
on nous laisse pas le choix, absolument, bien sûr, vous avez raison. Alors qu'on devrait regarder au plan des décisions, c'est une espèce de concours Lépine qu'on a. Je suis désolé, mais à part Éric Zemmour, qui pour moi a une analyse en profondeur, ce qui lui vaut du reste d'être brocardé et attaqué, parce qu'il a une doctrine, il a une doxa. Tous les autres sont des perroquets répétitifs, hein, qui répètent la même chose sans avoir le courage des solutions efficaces. On est dans un monde qui est très pénible pour l'intelligence, hein. Il faut aller vite, il faut répondre vite, il faut avoir des solutions à tout, et surtout, il faut être bien reçu dans les salons médiatiques. Donc, il faut faire du ménard, en quelque sorte. Voilà. On n'a pas été gentil hier, mais on l'est aujourd'hui. Donc, on mérite d'être bien reçu. Il y a une espèce de recherche du prix Nobel de la paix médiatique chez tous ces gens.
Ce qu'il y a aussi de dingue dans ce monde, Gilbert Collard, c'est qu'il n'y a plus de place pour la nuance. Vous le dites aussi, c'est-à-dire que chaque fois
Ben
qu'il y
oui.
a un sujet, il faut être pour ou contre.
Ah,
Les
voilà. Oui,
vaccins, vous êtes pour ou contre. C'est-à-dire, si vous
voilà.
êtes plus
Voilà.
nuancé pour la liberté, on vous accuse, on vous caricature. C'est la même chose pour la guerre en ce moment. Est-ce que tu es pour ou contre les Russes? Bah, ouais, je suis contre la guerre. On est très ennuyé à répondre à cela.
Mais on est dans un monde robotisé. Donc, il faut être pour ou contre. Dès l'instant où l'on introduit la moindre nuance, on se fait accrocher sur la nuance, comme si on avait fait de la nuance une opinion définitive. Or, la dialectique, le raisonnement, l'intelligence, je veux dire, depuis Montaigne, même si on veut aller plus loin dans le temps, depuis Platon, qui a fait de la philosophie la résistance à l'opinion publique, il ne faut pas l'oublier quand même, hein. Bon, depuis tous ces temps, les plus reculés de l'intelligence humaine, c'est la nuance qui fait le bon chemin. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas catégorique comme un pro, certain comme une rue Telkriev, définitif comme un Cohen dans l'émission là, c'est à vous, je crois, hein, il me semble, hein, ou tant d'autres. Bon, eh bien, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas sage, quoi, au coin, puni, il a une opinion, vous vous rendez compte, et elle est nuancée. Par exemple, sur l'Ukraine, moi je partage complètement l'opinion de Védrine, qui est un homme totalement nuancé. Totalement nuancé.
On ne peut pas dire qu'Hubert Védrine soit un fou d'extrême droite complotiste. Ouais,
voilà, hein, voilà, 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 bon. Oui. Voilà, et pourtant, quand on discute avec lui de l'Ukraine, ou quand on discute avec Carrère d'Ancos, elle a une opinion complètement nuancée qui n'a rien à voir avec les caricatures qu'on nous offre aujourd'hui. Et rien à voir.
Comme on aurait aimé avoir l'avis du général de Gaulle ou de Philippe Séguin sur ces questions-là. Eh oui.
Oui, mais vous savez, de Gaulle avait été
on va pas fasciste, hein. C'est pour ça que je vous disais ça. Il était beaucoup plus nuancé.
Mais c'était des hommes d'État qui avaient un cerveau en état de servir l'État. Aujourd'hui, on a des vedettes du music-hall médiatique, c'est très différent. Mais Monsieur Macron, je suis désolé, mais c'est une vedette du music-hall médiatique, c'est pas un homme d'État.
Oui, on critique les politiques, Monsieur Macron, etc., mais est-ce que finalement, c'est pas le peuple qui choisit? Finalement, il a été élu sans trafiquer les urnes, Gilbert Collard. Ce sont les Français qui sont responsables aussi, non?
Oui, mais bien évidemment. Mais bien évidemment, mais le problème, c'est que M. Macron a été élu au rabais, 60% d'abstention. Alors, quand les occupants de l'Aventin, cette montagne de Rome, où s'étaient réfugiés les Romains qui ne voulaient plus des sénateurs, parce qu'ils les trouvaient bons à rien, nuls, corrompus, ce qui a donné les tribuns du peuple, du reste, hein. Quand tout cet électorat qui ne vote pas descendra de l'Aventin pour aller voter. Et ça va être le cas, à mon avis, en avril. Tout va changer, parce qu'on enregistre de plus en plus d'inscriptions sur les listes électorales. Tout va changer, vous comprenez? Tout va changer. Il faut bien que les abstentionnistes, comme on les appelle, comprennent que ne pas voter, c'est voter. Ne pas voter, c'est voter pour le vide.
Oui.
Voilà.
C'est voter pour le gagnant, celui qui arrivera finalement indirectement.
Oui, voilà, mais c'est terrible, quoi, parce que si tous ces gens qui ne votent pas allaient voter, peut-être que Macron n'aurait pas été président de la République et Hollande non plus, hein.
Comment voyez-vous cet état de la France, vous qui avez connu des belles époques, hein, voilà.
Moi, je trouve qu'on est dans un.
On a parlé d'immigration tout à l'heure, mais c'est surtout sur le plan économique.
Sur le plan économique, c'est même plus la peine d'en parler. Quand on voit le taux d'endettement du pays, quand on voit le PIB, quand on voit la situation générale de notre économie, c'est catastrophique. On est quand même passé à la 7e position, quand même. Bon, donc on est dans une situation économique catastrophique et pourtant on ne cesse de nous parler d'économie. Moi, je commence à avoir une espèce de phobie des économistes. Hein. J'aimerais avoir quelqu'un qui a du bon sens et qui n'a pas de diplôme en économie. Hein.
Le meilleur, René Monory, qui a été un des meilleurs ministres des Finances et qui était garagiste.
Oui, tout à fait, voilà.
Hein, mais vous êtes d'accord avec moi?
Mais complètement. Mais l'économie, c'est le réel. Vous comprenez? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre époque, Et à mon avis, Marx, dans ses cauchemars les plus fous, n'aurait jamais pu y penser. C'est qu'on a mis au pouvoir la financiarisation. Autrefois, il y avait le capital. Mais le capital, on le traçait, on le suivait, on le gérait. Il était incarné dans des familles, il était incarné dans des murs, il était incarné dans des usines. Mais aujourd'hui...
C'était Francis Bouygues, Marcel Dassault.
Voilà, mais aujourd'hui, on a la financiarisation. Les lobbies, quand vous pensez que lorsqu'on interroge Macron sur, sur McKinsey, hein, le Macron, sur le fait que cette entreprise multinationale ne paye pas d'impôts en France, il dit « Ah oui, mais vous comprenez, si elle a pu trouver des solutions d'optimisation fiscale, c'est légal. » Mais attendez, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Et Attal qui dit « Mais attendez... »
Il paye une TVA.
Et bien voilà, il paye
la TVA. Extraordinaire ! Alors celle-là, voilà, elle est extraordinaire. Mais dire ça, oui, non. Oui, des solutions voilà, d'optimisation. Si le petit boucher du coin ou le boulanger du coin... fout un peu de black, comme on dit, qui déclare pas tout. Il dit, j'ai fait de l'optimisation comme McKinsey. Il va se faire matraquer la gueule, Gilbert Collard.
Non, mais vous vous rendez compte qu'on peut supporter dans ce pays 5 millions hein, de fonctionnaires. Je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas me tromper parce que j'ai pas la bonne mémoire.
On va dire plusieurs millions, voilà, on le sait.
Ouais, moi, je dis 5 millions, je crois que je ne me trompe pas. Hein. Bon, on a besoin de faire appel à des officines privées qui nous coûtent quand même une fortune, quoi. Une fortune. Et pourquoi on se le demande, quoi. On se le demande. Bon. Et quand on constate que ces officines qui gagnent beaucoup d'argent, on a un président de la République qui nous parle d'optimisation fiscale, quoi. Alors, pour être précis, j'ai retrouvé mes notes, il y a 5,7 millions de fonctionnaires en France. Et le nombre a augmenté en 20 ans, selon une revue qui s'appelle Capital.
Est-ce qu'il n'y a pas une revue ultra-libérale complotiste d'extrême droite?
Voilà. Vous vous rendez compte, non, c'est quand même impressionnant de voir ça. Hein. Alors, que de choses on aurait pu faire avec l'argent dépensé pour toutes ces officines. Hein.
Voilà. Protestation, confession sur l'état de la France, le nouveau livre de Gilbert Collard qui est publié aux éditions Hugo Doc. Eh bien Gilbert Collard, merci, on vous attend donc mardi soir à La Baule, vous êtes député européen. Comme vous êtes député européen, j'en profite pour vous poser cette question liée à l'Europe aussi. On voit que tous nos amis européens, notamment de l'Est, de l'OTAN, parlent anglais, ne veulent pas apprendre la langue française. On voit à quel point, dès qu'ils ont un peu d'autonomie, comme les Allemands veulent s'armer, on achète des F-35. Ensuite, les sous-marins. Vous voyez ce que je veux dire? Les Polonais,
etc. Mais y a pas, l'Europe pose un problème, ça. À la fois morale et économique. Il n'y a pas d'aide européenne. Et l'Allemagne est en train de jouer son jeu toute seule. L'Europe est allemande, c'est clair. Hein. Du reste, les principaux postes européens sont tenus par des Allemands.
Oui. Ma question, c'était, est-ce qu'on est les couillons un peu de l'Europe ?
Ben, on a fait l'Europe. On a inventé l'Europe. Normalement, le français devrait être parlé, on ne le parle plus. Et maintenant, on n'occupe plus aucune... Parce que l'Europe n'est plus qu'une affaire économique. Jean Monnet regrettait à la fin de sa vie, je ne sais pas si vous le savez, il regrettait de ne pas avoir construit l'Europe sur la culture.
Ah ben, vous me l'apprenez, Gilbert Collard.
Qu'est-ce qu'il aurait eu raison de construire l'Europe sur la culture ?
On aurait dû commencer par le début, par la langue, peut-être.
Bien évidemment, par la langue, par la culture, par la reconnaissance de l'histoire judéo-chrétienne de l'Europe, ce qui n'exclut aucun autre apport, mais qui dit la réalité historique. Bon. Non, on a fait de l'Europe une espèce de succursale bancaire, gigantesque, tentaculaire, où on ne parle que de contrats, que de fric, que de lobby, ça nous dépasse même, on n'arrive même plus à maîtriser, parce que ce sont des gens qui fonctionnent entre eux, qui se recrutent entre eux, qui se choisissent entre eux, et qui travaillent à l'intérieur du même mécanisme international, bancaire, financier.
Ils parlent entre eux, voilà. Merci Gilbert Collard.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Gilbert Collard. Gilbert Collard était mon invité ce matin sur Care News, président d'honneur du mouvement d'Éric Zemmour Reconquête, député européen et porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Gilbert Collard. Gilbert Collard, vous serez donc mardi 29 mars à 20h au Palais des Congrès Atlantia de La Baule pour une grande réunion publique dans le cadre de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Donc ce mardi 29 mars à 20h au Palais des Congrès Atlantia à La Baule.